Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
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 Elle.
Et lui.
Elle.
Lui.
Elle.
Lui. D'actuel.
Et lui.
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Bonjour Guillaume.
Et salut.
Et à nos auditeurs.
Et oui, voilà, on est de nouveau en direct. Moi, je m'entends pas, voilà, c'est un petit peu bizarre.
Ah.
Mais, c'est...
Mais tu es pourtant bien là, parmi
nous. Nous, on t'entend, en tout cas.
Nous, on t'entend.
Ouais, c'est, oui, c'est des petits... Voilà, ça va être mieux.
Petit problème technique. Hein.
Tous ces boutons, vous ratez...
Ah, bon, en attendant, bon appétit, hein, si vous mangez.
Toi, tu es trop forte, Anne-Marie, on t'entend trop.
Ah, d'accord. Bon, bah, je m'étais.
Mais non, raconte-nous de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, déjà, pour commencer.
Allez, bah, moi, je vais vous parler des tendances cette année. Alors, voilà, comment faut-il s'habiller, comment faut-il... Enfin, quel accessoire faut-il porter? Eh bien, je vous dirai tout
ça. Cool,
en
plus, c'est les soldes. Donc, c'est
exactement.
Le moment de refaire sa garde-robe.
Bah oui, mais si c'est les tendances pour l'année, c'est pas des trucs qui sont soldés.
Alors, Guillaume, la mode, tu sais, c'est chacun prend une pièce, un basique et...
Oui, d'autant plus qu'on verra quand même que... Bon, il y a une tendance qui se profile à l'horizon et c'est pas forcément celle que l'on croit. Voilà. Mais on verra, suspense. Et toi, alors Guillaume, tu vas nous parler de quoi?
Alors moi, je vais vous parler, je sais même plus si...
Si, nous on sait, nous on sait.
Je le sais, c'est du French bashing. C'est vrai qu'on en a entendu un petit peu parler ces derniers jours, mm-hmm. avec un article de Newsweek.
Pas très sympa. Hein.
Pas très sympa pour
la France.
Pour la France, donc voilà.
Bah, comme ça, tu vas pouvoir nous expliquer qu'est-ce que c'est que le French bashing.
Et toi, Aurélie, tu nous parles d'un sujet en particulier.
Alors moi, je vais vous parler de la personnalité de l'année 2013. Je reste encore un petit peu en 2013.
Très
Elle
bien.
Elle recycle ma chronique.
Mais oui, mais tu en avais parlé d'ailleurs. Tu nous en as parlé tellement que est-ce que tu sais de qui je vais parler?
Oui, du pape.
Ah, okay. Et bien justement, Aurélie, on va peut-être commencer par toi.
Oui, alors effectivement, une actu m'a fait réagir en cette fin d'année 2013 et donc je voulais vous en parler. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'ont en commun Edward Snowden, Barack Obama, la chanteuse Miley Cyrus et le pape François?
Si vous nous avez écouté,
vous le savez.
Il y a 15 jours,
donc c'est interrogation écrite. Donc en fait, ces quatre-là figuraient en fait sur la liste des personnes retenues par la rédaction du Time Magazine pour recevoir le prix annuel de la personnalité de l'année. Et il a finalement été attribué le 11 décembre. Et surprise, alors qu'effectivement la chanteuse Miley Cyrus était favorite, c'est finalement le pape François qui a remporté la mise et a été élu donc personnalité de l'année par la rédaction donc de Time Magazine. Parce qu'en fait, depuis 1927, chaque année, l'hebdomadaire américain récompense un homme ou une femme alors, qui a le plus marqué l'année écoulée. Pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Vous vous doutez bien que parfois, la personnalité de l'année, c'était pas...
Oui, parce que si ça avait été Miley Cyrus, on se serait bien douté que c'était pas pour le meilleur.
Non, effectivement, c'était pour ses exploits sur une boule de démolition, je crois. Donc,
elle était très habillée, hein, d'ailleurs, je crois.
Voilà, c'est ça. Et en fait, d'ailleurs, jusqu'en 1998, le titre, c'était « L'homme de l'année ». Et puis bon, du coup, on a élargi pour pouvoir accueillir des jeunes femmes nues, justement, à « Personnalité de l'année ». Et quand même, parmi les grands noms récompensés, on a eu le Mahatma Gandhi en 1930, Kennedy en 61, Martin Luther King 3 ans plus tard, donc en 64. Et donc cette année, le pape François.
Donc finalement, à chaque fois, des personnalités très populaires, et le pape François est populaire.
Effectivement, on peut remarquer cette popularité. Selon un sondage BVA, le pape argentin réunit 85% de bonnes opinions. C'est un résultat qui n'avait jamais été atteint jusque-là. Le pape Jean-Paul II était crédité de 80% et alors Benoît XVI, hein, le prédécesseur de François, 43%.
Ça, c'est son côté allemand. Ça.
Voilà, c'est ça, 43%, il n'avait pas trop la cote. Et en plus, on peut dire qu'on a vraiment des qualificatifs élogieux pour ce pape de 2013. Proche des gens et sympathique à 86%, simple à 85%, honnête, modeste, généreux, courageux à plus de 80%, tolérant à 79%, convaincant, voire même visionnaire pour 58% des personnes interrogées.
Donc il fait l'unanimité quand même.
Oui, il fait l'unanimité.
À chaque fois, c'est la
avec
grande majorité.
Scores,
c'est ça quand même, très haut.
Ouais, soviétique, presque. Donc l'historien des religions au Don Valais, cité par Le Parisien, juge que le pape argentin, alors je le cite, est sûrement le pape le plus populaire de l'histoire, bien plus que Jean XXIII ou que Jean-Paul II. Et il souligne que chaque mercredi, l'audience pontificale, c'est dur à dire ça, l'audience pontificale draine 4 fois plus de monde que sous Benoît XVI, entre 200 000 et 300 000 personnes. Donc en France, la popularité du souverain pontife transcende les clivages, bon, avec évidemment une bonne opinion plutôt des catholiques, 94% quand même, hein, mais aussi des croyants des autres religions, avec 88%, et même des sans-religions, avec 69%. Sa cote est assez élevée chez les jeunes, 75%, et tous les secteurs et dans tous les secteurs d'opinion, en fait, avec à droite 88%, mais même à gauche, donc traditionnellement plutôt anticlérical, 80%.
Donc il est populaire, mais on ne connaît peut-être pas forcément un petit peu sa biographie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus,
hein? Eh oui, alors ce nouveau pape, donc Jorge Mario Bergoglio, il est originaire
d'Bergoglio.
Bergoglio, oui, t'as raison, j'étais trop vite. Bergoglio est originaire d'Argentine, où il est né en 1936. Il suit une formation d'ingénieur chimiste avant d'entrer au séminaire de Villa Devoto, puis comme novice à la Compagnie de Jésus en 1958. Donc vous voyez qu'il a d'abord quand même une formation scientifique avant de continuer ses études, d'enseigner la littérature, la psychologie, bon, à l'Université catholique de Santa Fe, puis de Buenos Aires, et dans le même temps, en fait, qu'il a cette formation intellectuelle, il va prendre de plus en plus de responsabilités au sein de l'Église.
La Compagnie de Jésus, c'est les jésuites. Hein. C'est pour les gens qui ont entendu dire que c'était un pape jésuite.
Donc, tout à fait.
Grande famille de...
Grand mouvement, ouais, grand catholique. Mouvement catholique. Souvent, les jésuites sont enseignants. On connaît les fameuses écoles jésuites. Voilà, d'où cette tradition qu'il a lui aussi, dont il a fait partie.
Dans le domaine, quoi, de l'enseignement. Ouais.
Oui, oui, l'enseignement religieux, bien sûr. Donc, il devient prêtre, puis ensuite évêque d'Oca et auxiliaire de Buenos Aires, avant de devenir archevêque du même diocèse. Il est président de la Conférence épiscopale d'Argentine de 2005 à 2011. Et puis, en 2001, il a été créé cardinal par Jean-Paul II. Et alors, peut-être la chose que vous ne savez pas, en fait, déjà en 2005, au moment de l'élection de Joseph Ratzinger, donc Benoît XVI, il était déjà donc papabilé, c'est-à-dire qu'il aurait pu prétendre au trône de Saint-Pierre déjà à ce moment-là.
Mais apparemment, il se sentait pas prêt. C'est ce qu'il
voilà,
disait,
oui,
en fait.
Effectivement. Et puis on a été Joseph Ratzinger, c'était le responsable du dogme, donc on est retourné vers des choses beaucoup plus strictes après Jean-Paul II. C'était un choix.
Oui, puis il faut quand même pas oublier qu'à la fin de la vie de Jean-Paul II, c'est Ratzinger qui avait repris en main les affaires. Donc finalement, voilà, C'était plutôt une continuité logique, on va dire.
Voilà. Mais du coup, avec une personnalité quand même très...
Ah, la personnalité était très,
voilà,
différente.
Très prégnante. Donc jusqu'au 13 mars 2013, où effectivement, donc, François a été... où il a été élu et il a choisi le prénom donc, de François.
Et on sent quand même qu'il est relativement proche des jeunes. C'est une main tendue aussi vers les jeunes qui peuvent être considérés comme une cible, puisqu'il faut aussi renouveler quand même...
Et oui, effectivement. Alors, je vais essayer de vous montrer que, bon, évidemment, hein, on parle du pape. Je ne reviendrai pas sur le sérieux de sa fonction et sur ce caractère un peu austère. Néanmoins, je vais essayer de vous montrer qu'il a un côté quand même un peu rock'n'roll, ce pape François. Pour toucher les jeunes, en fait, la communication du Vatican a été quand même assez offensive. Il y a une page Facebook du pape que j'ai été voir d'ailleurs, qui est quand même assez bien faite, avec quand même 38 824 j'aime et 6877 personnes qui en parlent, donc qui reprennent les...
C'est pas énorme quand même, mais bon, ça...
C'est pas énorme.
C'est
pas
peut-être
énorme,
récent aussi. Hein.
Il faut penser que la population, comment dire, de base, elle est quand même plutôt âgée et ne fréquente pas forcément Facebook.
Ouais, enfin, 38 000 j'aime au niveau...
mondial, tu
au
veux dire.
Au niveau mondial, je trouve que c'est un petit peu léger. Mais
ouais, mais voilà,
je pense que
ça démarre.
Il commence. Voilà, il commence. Donc,
voilà,
on leur laisse le temps.
Et
on
verra.
Mais ouais, c'est vrai, 48 FM aussi est à la page, hein, puisque 48 FM est sur Facebook et
avec
Twitter.
Avec 48 000 personnes, bien sûr.
Oh, presque.
C'est l'objectif, 48 000.
C'est voilà. Le nombre de Lozériens. Voilà.
Un sur deux, voilà. Donc, pour vous faire découvrir d'ailleurs la petite bio, puisque quand j'ai travaillé sur cette chronique, du coup, j'ai été voir. Et alors, il y a d'ailleurs sur YouTube un petit film de 48 minutes, une sorte de petit dessin animé qui reprend toute la bio.
De 48 minutes ou de 4 minutes ?
De 4 minutes, j'ai dit 48, c'est vrai.
C'est pas grave. Quand on aime, on ne compte pas. Hein.
C'est ça. Non, donc un petit film de 4 minutes sur YouTube.
4 heures.
qui vous fait découvrir un petit dessin animé avec toute la vie du pape François.
Bon, et donc tout ça, cette stratégie vis-à-vis des jeunes, ça marche ?
Bah, écoute, ça a l'air de marcher puisque les jeunes qui avaient été interrogés à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse disent, et je les cite, « Nous aimons encore davantage l'Église avec... comment dire ? Et si le dialogue avec les jeunes est devenu un classique pour tout pape, le ton est assez nouveau. » Et lors de ces Journées mondiales à Rio, en fait, les commentaires s'étaient même un peu emballés. Les jeunes interrogés donc, disaient par exemple « C'est un pape moderne, je pense à son discours d'ouverture sur les homosexuels. » Donc disait Léa, une jeune fille du Nord, et sa copine Lucie disait « Ah oui, c'est bien ce qu'il fait, il est plus en phase avec la société, il a fait évoluer les choses et les idées, il faut qu'il continue pour que les chrétiens évoluent et qu'on puisse faire avancer le monde », disait donc cette deuxième jeune fille Lucie.
Et tu partages cette opinion ? Enfin, après, on ne te demande pas si tu y crois ou pas, mais tu partages cette opinion ?
Sur le pape, alors, effectivement, pour ce qui est de la doctrine, il faut quand même être extrêmement prudent. Pas de révolution pour l'instant. Là, je pense que quand elle parlait, effectivement, du discours d'ouverture vers les homosexuels, bon, on n'y est quand même pas encore. Hein, on y va doucement.
C'est plus tolérant, on va dire.
Voilà, c'est un tout petit peu plus tolérant. Il y a eu une petite phrase qu'on a pu interpréter comme un appel du pied... en direction des divorcés remariés, parce que vous savez qu'on peut pas, selon la doctrine, on n'est pas censé se remarier. Donc voilà, où il a montré qu'il était un petit peu plus tolérant. Mais en fait, c'est surtout au niveau du style où ça change. Il a confié, par exemple, que la petite serviette noire qu'il porte lui-même partout dans ses déplacements, je ne sais pas si vous avez vu ces photos, et ben, à l'intérieur, il range son agenda, puisqu'il veut garder l'entière maîtrise de son emploi du temps et fixer parfois lui-même ses rendez-vous en dehors de ce que son secrétariat lui inscrit à son agenda pour pouvoir quand même garder une certaine
Je ne voudrais pas être sa secrétaire quand même, hein. Ça doit être compliqué.
Non.
Je crois que ça doit être un secrétaire.
Un secrétaire,
ah
oui, c'est
ça
vrai.
Ça peut être une sœur aussi.
Oui,
peut-être.
Voilà.
Oui.
Mais effectivement, c'est un sacerdoce, bon, enfin, pour le coup. On
cherchera et
voilà.
On te dira ça.
Le pape a-t-il une secrétaire ou un secrétaire ?
Regardez l'organigramme du Vatican.
Vous avez peut-être également entendu l'anecdote ou vu les images, en fait, où ce nouveau pape quitte son hébergement de la Cité du Vatican après sa nomination et vient, en fait, payer sa facture d'hôtel. Et là, tout le monde, évidemment, voit le pape sortir son carnet de chèques et sort des gros yeux en disant « Non, mais vous savez... ça y est, c'est fini, vous ne payez plus rien. » Et dit, bah si, bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment la volonté de changer les choses, quoi. D'avoir une attitude...
Donc, oui, donc une attitude différente, mais un discours qui reste le même. Là, vous voyez, c'est en fait, c'est juste une question qu'on a oublié de poser.
Voilà,
là,
voilà, voilà. Donc je me débrouille
toute
seule.
On l'avait sur le bout de la langue.
Je me débrouille toute seule, je vais me faire mes propres questions. Déjà, je vous écris les questions qu'il faut me poser, bon sang.
Mais c'est qu'on t'écoute attentivement, Aurélie, on boit tes paroles.
C'est bien, c'est bien.
Donc,
vous étiez pas
une attitude un peu différente, mais malgré tout, un discours qui ne change pas.
Oui, effectivement, une des spécificités que les commentateurs que je vais citer ont bien remarqué, et ce qui peut parfois induire un peu en erreur sur le message, c'est la forme en fait, que le pape va donner à ses discours. Il est soucieux d'utiliser un langage simple et direct. Donc, le pape François recourt souvent à des termes donc, du lunfardo. Alors, voilà, pardon pour l'accent, voire parfois même à des néologismes de son cru. Donc, je vais m'expliquer un petit peu plus sur ce que c'est que ce langage. Donc, il n'hésite pas à être très proche de la presse. Je vais, par exemple, vous donner aussi vous rapporter un petit échange qu'il y a eu entre le journaliste Giorgio Mila de l'Osservatore Romano, le journal du Vatican, et le pape qui l'interpelle ainsi en lui disant « Mais dis donc, comment aurais-je pu imaginer il y a 50 ans que le plus rebelle de mes élèves écrirait dans l'Osservatore Romano ? Si je l'avais su, je ne t'aurais peut-être pas envoyé passer ton examen. » Et ce à quoi le journaliste répond en disant « Et moi, comment aurais-je pu imaginer il y a 50 ans que j'allais être reçu par un pape néologiste qui réinvente le latin, l'espagnol, l'italien ?» a rétorqué à François son ancien élève. Donc, vous voyez, pas super, super respectueux quand même. Hein. Il est assez familier avec ses proches. Et en fait, dès qu'il a embrassé le pontificat, donc François a surpris par ses gestes et aussi par son langage. Non seulement parce qu'il invitait les évêques et les prêtres à être, alors je le cite, hein, parce que forcément, la phrase est un petit peu... être des pasteurs qui sentent la brebis. Mais encore, il s'est mis à utiliser donc des termes presque argotiques, donc les fameux mots de lunfardo dont je parlais tout à l'heure, donc qui est un argot qu'on utilise à Buenos Aires et qui est la langue aussi du tango, donc une langue un peu familière. Voire même parfois des néologismes qui créent des mots qu'il invente en fait pour mettre l'accent sur telle ou telle notion.
Et on parle même donc de bergoglisme.
C'est dur à dire, hein. Ouais. Effectivement, ce nouveau pape, donc avec ce nouveau pape, on découvre des mots dans le discours qu'on ne connaissait pas, comme par exemple balconner ou pêcher une idée, tourner à vide, miséricordier, faire du bordel, faire une tête de vinaigre, sortir de la grotte ou se méfier des margoulins. Considérés donc comme autant de bergoglismes, les expressions du pape donnent du fil à retordre aux traducteurs. Parce que vous imaginez bien, il faut traduire ces espèces d'expressions bizarres dans toutes les langues.
Et encore, il ne nous a pas sorti le télébutinage de Guillaume il fut un
c'est
temps.
Vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, alors que je vous explique quand même un petit peu. Donc, par exemple, il a dit « Le Seigneur nous première, il nous attend. Tu prêches et il t'attend pour te pardonner. » Alors, ce terme
« Tu pêches ?»
Tu pêches ?
Ça dit tu prêches.
Ah, tu prêches. Tu pêches et il t'attend pour te pardonner. C'est, ce terme, donc, qui vient du latin primerear, provient en fait du langage. De l'espagnol, du langage footballistique de Buenos Aires. Et en fait, il exprime le fait de prendre l'initiative d'arriver le premier. Donc, c'est un petit peu bizarre pour de transmettre ça au Seigneur. Mais finalement, du coup, les gens, puisqu'ils utilisent ça pour le foot, vont être plus touchés.
Ils sont peut-être plus sensibles à ce langage, effectivement, qui
est leur quotidien.
Bah oui, qui est leur,
quoi. Et du coup, peut-être que, évidemment, pour moi, l'image footballistique ne me parle pas, mais peut-être que pour quelqu'un qui est à fond dedans, c'est plus clair. Alors, pareil, il a dit « ne balconnez pas la vie, entrez en elle comme l'a fait Jésus ». Donc, dans un de ses articles, Mila explique que « balconner », de balconéar veut dire regarder depuis un balcon en tant que spectateur mais non protagoniste, donc sans participer à ce qui se passe. Donc là, vous voyez tout de suite, l'idée c'est participer à la vie.
Oui, il faut être acteur
de votre vie.
Ah,
voilà.
Lui sur un balcon, comme Jésus. Il a quand même une.
Oui, il a un balcon super classe, super classe le balcon. Et plus d'une fois, on l'a même accusé d'utiliser des mots vulgaires ou populaires. Le père Javier Kleinschner de Buenos Aires dit
Javier,
oui, bah oui, avec l'accent, mais moi non. Hein. Donc, une bonne partie de ce que dit le pape, ses expressions, sa façon d'être, nous les vivons comme une réalité. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure pour le foot. Il rappelle ainsi que l'ancien archevêque de Buenos Aires décrivait la Vierge, alors, pardon pour les croyants, comme une femme des rues. Vous devez être comme elle, une femme des rues, être dans la rue. Alors, il s'adressait aux prêtres en disant ça, qui devait être proche des gens en fait.
Effectivement, c'est une façon de s'adresser aux gens et à l'Église qui change pas mal de choses et qui n'a pas grand-chose à voir avec la rigueur et le côté
l'austérité.
Le côté très austère de Benoît XVI.
Effectivement. Et depuis la succession, d'ailleurs, la conversation préférée des vaticanistes, donc tous ces gens qui vont commenter la vie de l'Église, est de comparer inlassablement le nouveau pontife à son prédécesseur pour les opposer ou, à contrario, pour mettre en avant leur continuité, notamment sur le fond. Donc au-delà de la différence de style dont j'ai parlé, la plus évidente et la plus visible sur l'extérieur, celle qui frappe davantage ceux qui travaillent au Vatican est la façon de gouverner du pape François par rapport à celle de Benoît XVI. Alors, une petite anecdote, les premiers vœux à la curie romaine de ce nouveau pape, le 21 décembre, offrent une anecdote assez qui illustre ce que je viens de vous dire. Donc ces vœux n'avaient, si j'ose dire, pas grand-chose de pieux. Après avoir un peu manié la brosse à reluire au début de son bref discours, en particulier, et je cite, à propos des vieux curialistes, cité en modèle, le pape jésuite a surtout passé un savon à son administration et en y mettant plusieurs couches encore, s'exprimant debout comme un chef d'entreprise face à ses plus éminents collaborateurs réunis ce jour-là. Il leur a demandé en somme un travail plus professionnel. Donc son allocution a quand même été retransmise en direct en salle de presse où elle avait été traduite et distribuée, de quoi pour tout le monde suivre en direct la remontée de bretelles publique, quoi. Donc, tous les témoignages de ceux qui collaborent donc de très près ou occasionnellement avec le pape François concordent dans ce sens. Donc, il s'agit d'un homme déterminé qui gouverne parfois avec dureté. Il travaille sans relâche. C'est un stratège en fait, qui semble avoir déjà tout en tête, qui maîtrise son agenda, sait qui il veut rencontrer ou non en audience et qui sait ce qu'il veut faire.
Parfait. Voilà. Bah, écoute, merci Aurélie en tout cas brossé un portrait de ce pape François. Et alors, pour illustrer ta chronique, tu nous fais écouter quelle chanson ?
Alors, j'ai choisi une chanson qui est pleine de bergoglisme avant l'heure. C'est Pas de boogie-woogie d'Eddie Mitchell.
Yes.
C'est une version live.
Le papa dit que l'acte d'amour à notre mari est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer. À ma paroisse, je suis curé. Quoi qu'il en soit, j'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon serment. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me pose bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu, il m'a donné la solution. Eh bien, j'en ferai, sans tout laisser. Reprenez-le une patte sans cœur. Bouillez-vous avant de faire vos prières du soir. Maintenant, l'amour est devenu péché mortel. Provoquez pas votre père éternel. Bouillez-vous avant de faire vos du soir. Afin d'observer les réactions sur cet visage de l'assistance reflétée sur toute indignation. Sont visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris. Ils me demandaient de faire à nouveau le serment des boogie-woogie. Mais bien, chers frères, c'est tout le seul. Apprenez-vous pas de s'enquêter à le boogie-woogie avant de faire vos prières le soir.
C'était cool, on a bien dansé là dans le studio.
Il y avait du monde, vous avez entendu tous les applaudissements.
Ah oui. Bon, et eh bien, alors maintenant, on va passer à toi, Guillaume. Et tu vas nous parler alors, d'un article qui n'était pas très, très sympa hein, sur la France. Et tu nous as appelé ça, d'ailleurs, le French bashing, je crois.
Eh oui, ben oui, effectivement. C'est comme ça que ce terme est venu un petit peu dans l'actualité au milieu de quenelle, mais bon, que je préfère manger à la sauce tomate ou nature aussi, ou à la sauce Nantua éventuellement. Voilà, donc effectivement.
On avait dit pas de chronique culinaire aujourd'hui.
Voilà, je ne parlerai pas de liberté d'expression, ni des limites de l'humour, tout ça. Non, non, on va rester effectivement sur cet article de Newsweek qui a fait beaucoup de bruit ces dernières semaines, et tout ça pour parler globalement du French bashing.
Alors, French, on voit ce que c'est, en gros. Mais alors, bashing, si on n'est pas anglais ou si on ne parle pas anglais, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, Aurélie m'a incité à utiliser Wikipédia dans sa dernière chronique. Donc, forcément, je m'exécute. Voilà. Donc, l'encyclopédie participative définit le bashing en revenant à son étymologie. Bashing est un mot qui désigne en anglais le fait de frapper violemment, d'infliger une raclée. Et il est devenu dans la langue française, je cite, « un néologisme d'origine anglophone » utilisé pour décrire le jeu ou la forme de défoulement qui consiste à dénigrer collectivement une personne ou un sujet. Lorsque le bashing se déroule sur la place publique, il s'apparente parfois à un lynchage médiatique. Le développement d'Internet et des réseaux sociaux a offert au bashing un nouveau champ d'action en permettant à beaucoup plus de monde de participer dans l'anonymat à cette activité collective.
D'accord. Et comment ce terme est utilisé ? Parce que tu sais que moi, je préfère les termes en français qu'en anglais.
Oui, alors bon, comme vous l'avez entendu, on va faire un peu de Aurélie alors, bashing, justement. Voilà.
Allez, on ne fait pas une chronique culinaire, mais on mange quand même. Hein, voilà. On précise.
Alors, en fait, en français ou comme en anglais, le terme est souvent précédé d'un mot. Donc, justement, c'est ce que je disais, c'est le Aurélie bashing. C'est le mot qui correspond au sujet sur lequel on s'acharne.
D'accord.
Et donc, on peut parler en 2013 de French bashing ou de France bashing ou de Hollande bashing, par exemple.
Oui, ça, c'est plus ces derniers temps.
Voilà. Et puis, donc, de Julie bashing. Les réseaux sociaux donc, sont notamment le lieu où ce bashing s'exerce de façon la plus radicale. Et selon Télérama, le bashing s'exerce en général aux dépens d'une seule personne, et ceci depuis longtemps, avec des cibles telles que DSK, Gérard Depardieu, avant eux, Raymond Domenech, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy. Mais aussi le bashing peut viser des groupes de personnes telles que l'équipe de France de football en 2010, par exemple.
Mais là, aujourd'hui, tu nous parles plutôt du bashing qui correspond effectivement à la France, puisqu'il y a eu un article dans Newsweek qui n'a pas été très tendre avec nous.
En effet, le 3 janvier, l'hebdomadaire Newsweek, qui est publié maintenant que sur Internet depuis quelques années, donc a publié un article sur le déclin de la France, The Fall of France. L'analyse que fait la journaliste Janine Di Giovanni n'est pas illégitime ni d'une grande originalité. Elle est sans doute partagée par un certain nombre de personnalités politiques libérales. Mais Madame Di Giovanni, qui fonde sa légitimité sur le fait de vivre à Paris depuis une dizaine d'années, commet un nombre incroyable d'erreurs factuelles qui ôtent une bonne part de la crédibilité de ce réquisitoire.
Par exemple ?
Alors, par exemple, il y en a beaucoup d'exemples. On va s'intéresser qu'à certains d'entre eux, les moins politiques, entre guillemets, et plus ceux qui concernent, par exemple, des sujets de consommation. Et je me suis servi beaucoup du blog du Monde qui s'appelle Les Décodeurs, qui a vraiment analysé et mis des arguments en face de chacune de ces phrases, de ces erreurs. Alors on va commencer par une tout à fait sémantique et assez savoureuse sur l'entrepreneuriat français. Alors, je vous le fais en français, ça sera mieux.
Oui.
Le problème avec le français, c'est qu'il n'existe pas de mot pour entrepreneur.
Et alors, l'argument ?
Alors, l'argument, c'est que l'auteur reprend à son compte une affirmation qui a été attribuée par George W. Bush.
Ah bah ça aussi, donc, c'est quelle référence ?
Une super source.
Super source, donc voilà. Mmh. Il a dit ça en 2002 et qui pourrait être employé ici dans un sens ironique, même si ce n'est pas évident. Le petit Robert est en tous les cas formel. Le mot entrepreneur existe bel et bien dans la langue française et ce depuis des lustres. Et d'ailleurs, le mot anglais a été emprunté au français au 19e siècle. Donc,
et toc.
Voilà, première,
et toc dans les dents.
Voilà, première.
D'autres exemples, parce qu'il y a aussi tout ce qui est consommation, les fameuses aides sociales françaises.
Voilà, on va commencer avec la consommation. Alors, le 2 000 litres de lait à Paris, par exemple, coûte presque 4 dollars. 3 euros environ. Et le prix d'un gallon, 3,8 litres, hein, aux États-Unis.
D'accord, oui. Alors moi, je ne sais pas où elle va faire ses courses, mais voilà. Moi, la dernière fois que j'ai acheté un litre de lait, c'était pas 3 euros. Hein.
Voilà, donc non, mais il va savoir, il y avait peut-être du champagne dedans.
Ah, le demi-litre.
Il y avait peut-être du champagne.
Donc, ça voudrait dire 6 euros le litre. Oui, bah, bien sûr.
Voilà, donc un demi-litre. Enfin, effectivement, Janine Di Giovanni réside dans le très cher 6e arrondissement de Paris. Mais on se demande quand même là où elle peut bien aller faire ses courses, ah bah voilà. Parce que du lait demi-écrémé, y compris au rayon frais et bio, le plus élevé que les décodeurs ont trouvé, c'est 1,42€ le litre. Donc voilà, on peut monter jusqu'à 2€ pour des produits plus spécifiques, mais certainement pas 5,80€.
Alors, oui, l'autre, c'est les aides sociales où souvent...
Oui, les couches sont gratuites, les gardes d'enfants sont déductibles des impôts et les crèches sont gratuites dans tous les quartiers.
Ouh, bah là, ça va faire tousser plus d'une maman.
Voilà,
je pense
que les parents vont être bien contents voilà. d'entendre ça.
Donc, hormis au Secours Populaire ou dans d'autres organisations caritatives à destination des plus précaires, et le cas de centres de protection maternelle infantile qui peuvent distribuer quelques couches, il n'existe aucun dispositif généraliste en France offrant des couches aux parents. Enfin, voilà, ça se saurait.
Je pense que tout le monde est d'accord.
C'est un vrai budget. Hein. Oui. Voilà, je salue mes derniers neveux et nièces qui sont des jumeaux. Je peux vous assurer que le budget couche pour les parents, c'était pas tout à fait négligeable. Enfin bon, il est exact que la prestation d'accueil du jeune enfant permet de déduire une partie du coût occasionné par une garde d'enfant de ses revenus, mais le système est loin d'être unique. Aux États-Unis, existe par exemple le Household and Dependent Care Credit, une réduction d'impôt en fonction des dépenses engendrées, notamment par les gardes d'enfants.
Oui, donc c'est à peu près kiff-kiff, quoi.
Voilà, bon, ce sont peut-être pas les mêmes taux,
oui, etc. Oui, mais voilà, mais enfin, en tout cas, c'est le même esprit.
Par ailleurs, il n'existe aucune crèche gratuite en France. Les crèches sont soit municipales, soit privées, soit associatives. Mais tout le monde les paie, même si les aides de la CAF peuvent, pour les plus modestes, prendre en charge une grande partie. Oui. Alors après, autre citation de notre journaliste de Newsweek.
Enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler d'ailleurs journaliste.
Je propose qu'on fasse du Janine bashing, moi, parce que voilà. Franchement...
C'est un peu ça, c'est un peu ce qui lui est arrivé.
Bien fait pour elle.
L'État français paye également pour toutes les nouvelles mères, dont moi, des consultations chez un kiné 2 fois par semaine pour retrouver un ventre plat. Cela a été conçu comme une incitation à la natalité. Votre mari sera moins enclin à vous toucher si vous avez toujours vos rondeurs de grossesse. C'est si français. Après la Première Guerre mondiale, tant de jeunes hommes sont morts dans les tranchées.
Ah ! Là, on ne sait pas le lien entre la Première Guerre mondiale.
Voilà, c'est un peu compliqué.
Surtout que la Sécu, ce serait plutôt la Deuxième Guerre mondiale.
Voilà, mais justement, on y vient.
Vas-y, raconte-nous.
Donc, la Sécurité sociale rembourse surtout des séances de réduction périnéale et non abdominale après l'accouchement quand le médecin le juge nécessaire. Même si ce dernier peut prescrire de la rééducation abdominale sans que ce soit lié à un accouchement. Le système de soins français permet de toute façon à un praticien de prescrire des séances de kinésithérapie s'il l'estime nécessaire à un patient.
Voilà.
Voilà. Et ces séances sont alors remboursées. C'est le principe même. Prétendre que ce principe date de l'après-Première Guerre mondiale est encore une fois aberrant. Les premières ordonnances de sécurité sociale datent de 1928.
Voilà.
Sa généralisation de 1945... Il est tout aussi ridicule d'affirmer qu'il s'agit d'encourager la natalité en rendant les femmes plus désirables, puisqu'il s'agit de rééducation périnéale et non abdominale. Oui. Et puis après, je ne sais plus, je crois que c'était dans une chronique précédente, et puis je crois que tu vas nous en parler aussi, c'est pas forcément le ventre plat qui est toujours...
Non, et puis c'est surtout que là, on parle de femmes qui viennent d'accoucher. Ça m'étonne. Enfin, voilà, tu viens d'accoucher, je ne pense pas que tu as envie de remettre le couvert de suite. Et, non, mais c'est vrai. Et là, je me dis, cette femme, elle est journaliste sur le papier, parce que franchement, vu ce qu'elle dit, non, elle n'a fait aucune enquête de terrain, mais en plus, j'ai l'impression qu'elle est stupide, quoi, pour dire des choses aussi énormes.
Ouais, puis d'abord, moi, je veux dire,
pas être net,
un
quoi.
Truc, c'est qu'il faudrait qu'on lui dise que les Français sont toujours tellement désirables que d'abord, on n'a même pas besoin de faire ce genre de truc. On est trop magnifique. Non, mais où ? Allez, Janine,
mais on
retourne.
S'en fiche, en plus, tu viens d'accoucher. C'est bon, tu ne vas pas parader en bikini.
Moi, j'ai compris que dans
plage,
le bashing,
quoi.
Il fallait un peu faire preuve de mauvaise foi. Donc, écoute, on dit, toi, tu retournes faire ta gym à New York et arrête de venir nous...
Bon, allez, encore un autre exemple. Ouais, c'est tellement...
Il y en a d'autres. Allez.
Oui, une autre amie banquière a passé 3 mois de congé maternité payé à faire de la voile en Guadeloupe. Comme il s'agit d'une partie de la France, elle a continué à toucher ses allocations.
Ah, donc alors, c'était peut-être pour en complément de la kinésithérapie.
C'est ça.
Un peu de voile.
C'était peut-être elle qui voulait ventre plat pour parader en bikini.
Ah bah oui.
Voilà. Le congé maternité serait-il une exclusivité française ? Voilà la question que posent les décodeurs du Monde. Il semble pourtant qu'il existe dans des termes quasi similaires au Royaume-Uni et nombre de pays ont un système équivalent, les États-Unis faisant figure d'exception. le reste de l'exemple est quelque peu inepte. La Guadeloupe est un département français, certes, et un congé maternité n'impose de toute façon pas de rester chez soi ou dans une zone géographique donnée. Donc, bon, même si 3 mois de voile avec un nouveau-né n'est sans doute pas conseillé par les pédiatres...
Enfin bon, après, chacun fait comme il veut aussi.
Chacun fait comme il veut. C'est effectivement un congé maternité, donc, sur lequel il n'y a pas du tout d'obligation de lieu de résidence. À la limite, on pourrait aller à l'étranger pendant le congé maternité.
Bah oui. Si ce n'est que, comme disait Anne-Marie, on a un peu besoin de se remettre, peut-être.
C'est ça.
Donc, oui. Puis comme on a des kilos en trop, voilà. Ah.
Bah, sauf si tu es en bikini pour faire de la voile, là. Oui. Effectivement, c'est la loose. Donc, il y a aussi, effectivement, on a vu un certain nombre de comparaisons historiques un peu hasardeuses. Oui, elle n'a pas l'air d'être...
Je vais vous citer un extrait de la...
Non, elle n'est pas fine, elle n'est pas fine.
Je vais vous citer un extrait de la tribune d'Anne Sinclair, la directrice éditoriale du Huffington Post. Français, hein, et qui connaît bien aussi les États-Unis, puisqu'elle y a vécu. Et voilà. Et donc, je vous lis un petit extrait de cette tribune qu'elle a écrit, qui justement.
Donc, en réponse, elle a écrit cette tribune en réponse.
En réponse à l'ensemble, et je vous cite cette partie sur le. Notamment autour de l'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes, vous allez voir. Ah. Donc, elle a bien des soucis, oh, pas tant pour elle que pour ses amis. Ils sont banquiers ou avocats d'affaires et ont été obligés de s'exiler devant le montant des impôts qui les frappe depuis que François Hollande a été élu président. Elle se trouvait avec l'un d'entre eux, raconte-t-elle, quand ils ont croisé Pierre Moscovici l'autre jour dans un restaurant japonais de son quartier. Et son ami lui a chuchoté « Tu vois ce type dans le coin là-bas ? Je vais le tuer, il a ruiné ma vie. Oui. » Autre référence historique, aucune référence historique ne paraît trop forte à la journaliste accablée. La bousculade éperdue hors de France des grandes fortunes d'aujourd'hui lui rappelle ce moment d'histoire où la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV entraîna une saignée considérable dans la société française, les protestants étant contraints à l'exil pour éviter la persécution. Ils sont partis les mains vides, craignant pour leur vie, et la France mit longtemps à se remettre de cette faute morale et politique. On sourirait si la comparaison ne faisait bondir. Voilà, comparer effectivement l'exil fiscal à...
À des pauvres gens qui ont fait des centaines de kilomètres à pied à travers les montagnes.
Oui, mais tu te rends pas compte, Aurélie, ses copains, ils ont de vrais problèmes.
Voilà, eux, ils font de la voile en Guadeloupe et ils traversent pas les Alpes à pied et dans le froid.
D'accord. Pauvres. Ah non, vraiment, c'est pas.
Enfin bon, je vais pas revenir quand même sur toutes les attaques non justifiées, mais voilà, cet article a déclenché de nombreuses réactions ces derniers jours.
Mais alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Le pourquoi du comment?
Comment expliquer ce French bashing? Effectivement, c'est Ian Thompson de France TV Info. C'est entretenu avec un universitaire américain, Arthur Goldhammer, qui est affilié au Centre d'études européennes de l'Université d'Harvard, et d'Alexis de Tocqueville à Pierre Rosanvallon. Il a traduit plus de 120 ouvrages français et tient le blog French Politics, où il commente l'actualité française. Alors, le journaliste français a interrogé son invité sur les erreurs factuelles de l'article et sur comment il les expliquait. Arthur Goldhammer lui a répondu en insistant sur le sensationnalisme du journalisme de Newsweek, dont le but est, selon lui, d'attirer des lecteurs. Mais ce French bashing n'est pas nouveau, puisque le Time a publié en 2007 un article sur la mort de la culture française avec autant d'erreurs et d'exagérations. Il déclare « Il est ahurissant de publier de tels articles. Malgré tout, l'engouement en France autour de l'article de Newsweek est un jeu de dupes, car de tels articles relèvent de la provocation. Cela ne méritait pas la réaction de ministres français. Aux États-Unis, d'ailleurs, personne n'a repris l'article. »
Mais ça ne mérite même pas un article tout court, j'ai envie de dire.
Oui.
Mais en fait, parce que moi, si j'ai bien compris, là, il y a un seul article, mais si on était... Enfin, tout à l'heure, quand tu nous as défini le French bashing, c'était censé y avoir... il était censé y avoir... plusieurs personnes, d'après ce que j'ai compris, qui tapaient sur la France.
Oui, mais
est-ce que, justement, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'articles qui ont cette perception ?
Il y a eu cet exemple du Time, il y a eu d'autres...
C'est que ça révèle un sentiment, peut-être, anti-français.
Ça révèle effectivement une perception de la France par les Américains, notamment. Et pour Arthur Goldhammer, la France sert de repoussoir aux Américains. C'est un pays commode en matière de comparaison, avec des clichés des deux côtés. Quand les Français réduisent les États-Unis à l'obésité, la malbouffe, le racisme, l'obsession du travail, les Américains voient en la France un pays paresseux, fait de luxe et de snobisme, avec un gouvernement omniprésent et des impôts trop élevés. Alors le journaliste de FTVI, France TV Info, demande ensuite quelles sont les raisons de ces clichés, et il répond « C'est le fruit d'une longue histoire entre les deux pays, difficile à résumer. Dans les années 50, les Américains ont été marqués par l'interventionnisme français en matière de développement économique, d'où l'image de gouvernement omniprésent. Il y a eu l'attitude de De Gaulle à l'égard des États-Unis et une tradition de diplomate aristocrate français, d'où l'image d'arrogance. Aujourd'hui, les médias ont une responsabilité importante dans la propagation de ces clichés. Le monde universitaire, plus sérieux, est davantage préservé. Les comparaisons superficielles de certains chercheurs sont corrigées par les critiques aimables des collègues dans les conférences internationales. Donc là, il se repositionne dans sa fonction d'universitaire. Arthur Goldhammer dresse également dans cet entretien un bilan de ce French bashing. Le French bashing a été particulièrement grave durant la guerre en Irak en 2003. À l'époque, il y avait une tension forte entre les deux pays autour d'un vrai différend sur l'entrée en guerre. Aujourd'hui, la comparaison porte sur la France qui reste enlisée dans la crise et les États-Unis qui veulent croire qu'ils s'en sortent. Cela prête à tous les clichés entre la France étatiste, dirigiste, protectrice et l'Amérique avec son économie libérale et ses lois plus souples. Critiquer la France est aussi un alibi pour ne pas porter l'attention sur les faiblesses de la société américaine. C'est réconfortant pour les Américains.
Et puis peut-être qu'ils aiment bien, châtient bien aussi.
Oui, allez, sans doute.
Et justement, tu vas nous faire un petit bilan quand même de ce French bashing.
Bah oui, en conclusion de cette chronique, on pourrait dire que c'est finalement très humain que de faire du bashing, hein, surtout si c'est pour se réconforter et se dire que les autres sont moins bien que nous. Ça fait jamais de mal à l'ego.
Exactement.
Mais peut-être qu'il faudrait envisager de capitaliser un petit peu sur cet ego blessé qu'on peut ressentir quand effectivement on se sent attaqué. Et les nombreuses réactions de ces dernières semaines ont prouvé d'une certaine façon cette blessure. Pour démontrer par l'action qu'on ne mérite pas forcément ses critiques. Voilà, je crois que c'est aussi ça. Et donc finalement, de croire en nous, d'avancer quoi qu'il en soit, et puis de.
Mais après, c'est pas une remise en question des critiques, parce que on peut effectivement critiquer un État ou ses caractéristiques. Sauf que là, quand même, on se rend compte qu'elle écrit des énormités.
Les faits sont des erreurs. Voilà.
Donc elle peut nous critiquer, mais faut-il encore qu'elle sache faire son travail correctement.
Oui. C'est sûr.
Oui, même pourquoi pas. Enfin, si on veut caricaturer, on prend un fait qu'on va grossir. Mais là,
c'est même pas de la caricature,
voilà,
parce que c'est
le
faux,
fait de base,
c'est
il
ça,
est même faux. Enfin, voilà,
c'est ce que je disais au tout
c'est
début.
C'est même pas renforcer le trait, quoi.
C'est ce que je disais au début. Elle décrédibilise son argumentaire, voilà. Son réquisitoire, par les arguments qu'elle nous a donnés.
Et tu voulais nous présenter un autre ouvrage.
Oui,
un ouvrage.
Je voulais juste finir de cette chronique en évoquant que vous retrouverez dans les maisons de la presse, dans les bureaux de tabac, un bouquin qui s'appelle « Sans dessin de cartooning for peace, pour la liberté de la presse ». Et donc, dans cette période où on parle beaucoup de liberté d'expression, je pense qu'on peut avoir une pensée pour tous les journalistes tués, emprisonnés, pris en otage, oui. Alors qu'ils font leur métier en nous informant. C'est un bouquin qui est édité par Reporters sans frontières. Ça coûte 10 euros. C'est justement toutes les recettes sont versées pour Reporters sans frontières. Je trouve que c'est une bonne façon de soutenir ce genre d'organisation parce qu'on n'a peut-être pas forcément envie de donner, faire un chèque directement. Et finalement, là, ça fait aussi un objet qu'on garde, donc c'est pas forcément plus mal. Voilà.
Oui,
donc,
c'est
des dessins, c'est assez sympa, ouais. c'est joli. Et donc, voilà.
Merci Guillaume pour cet aparté. Et alors, on reparle du French bashing. Concernant la musique, tu nous proposes quoi?
Je vais rester dans le côté un peu provocateur et puis un petit clin d'œil américain. Et donc, je vais vous proposer Bad Romance de Lady Gaga. Oh, 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 oh.
Elle
et lui. Et voilà, troisième partie de cet actuel et lui avec Anne-Marie et ses tendances.
Exactement. Alors, comment faut-il s'habiller en 2014 pour être à la mode ? Quelle coiffure doit-on porter, quels sont les accessoires incontournables qui vous mettront en valeur ? Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques petits conseils pour être au top. Alors, à vos stylos.
Tiens, bah, prête-moi ton stylo, que je prenne des notes. D'accord. Pour que tu me dises, en cette période de solde, qu'est-ce qu'il faut que j'achète ?
Eh bien, soyez détendus. Je ne vais pas vous dire de porter les mêmes habits que Kate Moss, hein, qui fête aujourd'hui, 16 janvier, ses 40 ans.
Bah, si ce n'est pas dans la même taille, ça me va.
Oui, c'est sûr que pour avoir la taille de Kate Moss, il ne faut pas manger grand-chose. Hein. Alors, figurez-vous qu'en 2014, c'est la revanche du moche. Le moche n'est pas forcément celui qui porte l'habit, hein, attention, mais bien l'habit lui-même. C'est la mode du beau mot. Donc, abat le look BCBG, hein, bon chic, bon genre, ou encore le look bobo parisien, ça, c'est has-been.
Mais ça veut dire quoi, beau mot ? Beau et moche ?
Ben, justement. Alors, pour être clair dans mes propos, je vous ai sélectionné quelques explications trouvées sur le site du Nouvel Obs. L'incongru, le laid, le vieillot, c'est la nouvelle marotte des beaux-mots, ces trentenaires décalés qui jouent au troisième degré de l'esthétiquement incorrect. Ils aiment le vieux, le toc, le moche, ils vénèrent les tapisseries, les serres sur les pulls en laine et les chaises Scooby-Doo. Ils ont le culte du décalé, du déclassé, voire de l'inclassable. Ils assument, cela fait partie de leur parcours d'initié de connaisseur. On les appelle les beaux-mots, traduisez les bourgeois moches.
Ah, donc en plus, ils payent ça une fortune. C'est ce que tu veux nous dire, s'il y a un côté bourgeois.
Oui, non, pas forcément.
Ah, non, pas forcément.
Après, les habits sont pas forcément chers.
Ah,
c'est
oui.
Juste.
Moche.
C'est juste. Oui, et puis c'est les bourgeois parce que.
Parce que bobo.
Voilà.
Ah, ouais, d'accord.
Et alors, justement, le bourgeois de 25-35 ans, là, on n'est pas forcément bourgeois, mais en tout cas, nous, on est pile poil.
Dans
cette
d'âge.
Tranche d'âge, alors sauf Aurélie,
ah oui, qui est passée du côté obscur de la force, comme chacun sait dans cette émission.
Je plaisante. Donc ce bourgeois de 25-35 ans explore de nouveaux terrains.
On est au cœur de cible, hein, nous. Hein.
Exactement. Donc, et il investit
super,
aussi...
Super, vous allez être moche désormais. J'aimerais bien que non. Restez du côté des
beaux.
Voilà, des beaux et sans les moches.
Peut-être qu'on est déjà moche. Hein.
Mais t'es pas obligé de mal t'habiller en prime avec un pull, avec un cerf dessus.
Ah bah oui, mais Ludovic aime bien les pulls.
Ah oui, ah, c'est ça. Ah mais lui non plus, il est plus dans la cible, il est passé du côté obscur de la force.
Oui, puis bon, comme il est pas là, on va pas l'attaquer parce qu'il non, peut pas vrai. Se défendre, le pauvre.
Il pourrait venir surtout.
Ouais.
Donc
frapper.
Ce bourgeois investit les codes du vieillot. C'est le retour du chouchou dans les cheveux. Bon, alors j'en ai en plus, mais oui. Bon, voilà. Du sac à dos en forme, j'en suis sûre que vous en avez forcément un. Des vieilles photos Polaroid. Effectivement, en plus, c'est à la mode, hein, le nouveau Polaroid.
Avec Instagram, avec...
Oui. Des bijoux en plastique cheap and talk et des couleurs moutarde, orange, tant qu'à faire, du style pieds nus dans les chaussures de ville, le truc bien bien laid. Finalement, elle tombe bien, cette tendance, car avouons-le, on a tous des vieux pulls laids dans notre garde-robe. ou bien un sac banane qui traîne au fond de nos tiroirs. Et ça, je parle pour moi parce que j'en ai une jaune d'ailleurs.
Ouh,
ouais, je la mets jamais, hein, mais j'en ai une.
Ton défi,
elle est dans la couleur, il y a ouais. tout là qui va bien.
Mais, mais ça, c'est quand j'avais 12 ans. Donc je me dis finalement, à 12 ans, j'étais déjà une bomo.
Voilà.
Pratique et économique également, cette mode du bomo, puisque ces vêtements moches peuvent être chinés dans les brocantes ou trouvés également dans les cartons de nos grand-mères. Donc pour répondre à tes questions, Aurélie, tu vois,
donc c'est,
non,
bon.
c'est vraiment pas cher.
Bon, alors d'autres tendances en matière de mode.
Si on veut pas être beau moche.
Oui, beau mais moche. Elles sont toutes aussi déjantées, je suis navrée. Ah. Le site levif.bi décrypte deux autres tendances. Alors, on reste toujours dans le kitsch avec le bolélé. Alors, clin d'œil à la chanson de Carlos. Hein. Ici, alors là, on est dans l'excès de couleurs.
Ah.
De motifs exotiques et ethniques. L'inspiration est à chercher du côté de la nature, du sud et de la fête. Génial pour mettre quand même de la couleur dans notre vie, surtout en ce moment, c'est l'hiver.
Donc, chemise à fleurs.
Exactement.
Tout ça.
Tu sais, les chemises un peu hawaïennes. Voilà. D'où le petit clin d'œil effectivement à Carlos, puisque c'était quand même son
oui,
style.
La chemise, grande voilà. chemise à fleurs.
C'était son style.
Tout nu et tout bronzé. Hein.
Aussi. Enfin, vous pouvez également flasher sur le Cosbo, alors raccourci de cosmique et bourgeois, plus transgénérationnel.
On est souvent bourgeois quand même.
Oui, oui. Oui, enfin en même temps, tu sais, tu parles de ça à des pauvres, effectivement, ils s'en foutent un peu, je pense, de la mode, tu vois.
C'est
donc,
vrai, c'est vrai.
C'est pour ça qu'on parle souvent quand même des bourgeois. Bon. Alors, plus transgénérationnel. Aurélie, ça peut t'intéresser, hein, ce Cosbo. Cette catégorie apprécie les purs et un sentiment futuriste, tel qu'on l'imaginait dans les années 60-70, avec un goût prononcé pour le blanc, le monochrome et les volumes inédits.
Les volumes inédits, ça fait rêver. Hein.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Alors, avant qu'on parle de la mode de la ménagère de moins de 50 ans, pour moi, j'aimerais bien plutôt qu'on parle un petit peu cheveux et coupe de cheveux.
Et là, je vais surtout m'adresser peut-être à Guillaume et à nos auditeurs hommes.
Ah, après, sachez, top coat.
Voilà, sachez, messieurs, que la crête est au sommet.
Ah bah oui, ça va bien t'aller.
C'est la tendance du moment, Guillaume. Alors, surtout chez les jeunes, vraiment ceux qui sont au collège, les adolescents, non plus lycée, mais aussi chez les trentenaires. C'est pour ça que je te regarde, Guillaume.
Ah, je suis pas encore trentenaire.
Non, mais tu approches. Tu brûles.
Ouais, mais comme tu vas être tendance, tu vas être un peu en avance.
Effet décoiffé, crête peroxydée, tout semble permis, même le mauvais goût.
Même peroxydée.
Alors, si vous n'avez pas encore opté pour cette coiffure qui ne passe pas inaperçue, vous avez forcément croisé des hommes avec ce look dans la rue ou sur les terrains de sport. Alors, pourquoi je dis terrain de sport ? Parce que cette tendance est inspirée par nos amis les footballeurs, tels que Djibril Cissé, Mamadou Sakho, Florian Thauvin ou encore Cristiano Ronaldo. Alors, vous vous demandez sûrement comment faire pour créer cette coupe aussi originale qu'improbable, n'est-ce pas, Guillaume ?
Oui, tout à fait.
Bon, bah là, il a très envie, je vois bien. Il meurt d'envie.
Alors, on dégage bien les côtés en les rasant de préférence.
Ah oui.
Et on laisse une bande de cheveux plus ou moins large sur le sommet du crâne. À vous, ensuite, de laisser vos cheveux au naturel ou de les teindre en rouge, par exemple. Vous pouvez aussi les décolorer ou bien encore, vous pouvez les faire dresser sur la tête grâce à du gel. Alors là, c'est pas forcément très sympa pour votre copine hein, qui ne pourra plus passer ses mains dans vos cheveux soyeux, mais c'est l'idéal pour garder la même coiffure qu'il pleuve ou qu'il vente. Alors les femmes sont plus rares à porter quand même cette crête. Certaines ont quand même osé, mais là il faut chercher du côté des stars avec la très sage hein, Miley Cyrus ou la très discrète Willow Smith.
Ok, et si on ne veut pas porter une crête et qu'on n'est pas un homme de moins de 30 ans, qu'est-ce qu'on porte ?
Je suis navrée, hein, mais je parle vraiment des tendances 2014. Alors après, si vous voulez être à la page ou pas, hein,
voilà.
Ça vous regarde. Hein.
Bah, ou pas.
Voilà, ou pas. Mais là, je pense quand même que ça va t'intéresser.
Le beau mot, à la limite, ça peut encore m'aller. Le beau lélé aussi.
Mais la crête, non.
La crête.
Mais il faudrait qu'on tente une fois quand même sur toi.
Ah, mais après, le problème, c'est le casque. Pour pouvoir mettre le casque à la radio, s'il a la crête.
J'ai pas dit après que la crête devait mesurer un mètre de haut.
Si tu mets le casque en arrière.
Il faut avoir évidemment une petite touffe de cheveux quand même sur le sommet du crâne, mais pas une mèche à la Titeuf, hein, donc il n'y a pas de souci.
Ouais. D'accord.
Alors, Aurélie, tu me posais la question. Voilà. Pour les femmes, au niveau coiffure, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, le dernier salon mondial de la coiffure hein, avait donné il y a quelques mois ses conseils pour une coupe de cheveux de tendance pour 2014. Guillaume se marre, on va peut-être le laisser tout seul.
Parce qu'ils viennent de découvrir qu'il existait le salon mondial de la coiffure, peut-être. Ou ils s'imaginent avec une crête.
Non.
Alors,
d'accord.
Bah, on mise cette année sur l'arrêt, Aurélie. Et là, je vais te dire que tu es tendance. Parce que, selon le magazine Avantage, en 2014, l'arrêt s'impose dans une version plus lisse, plus plate, plus nette. Et se dit... J'ai perdu Guillaume.
Il est tout rouge, il est écroulé de rire. Ludo, si tu nous entends, apporte un respirateur.
Donc, l'arrêt se dessine le plus souvent sur le côté. C'est pour
comme
ça
moi,
qu'on est voilà. À la mode. On la bichonne, on la soigne, elle est de plus en plus travaillée. Seul impératif, avoir des cheveux brillants. Et avoir des cheveux
tu
brillants.
Tu veux dire que j'ai pas les cheveux brillants, peut-être.
Avec un peu de top coat, normalement, ça devrait être bon.
Voilà. Grâce à Anne-Marie, on sait tout pour être parfait.
Alors, par ailleurs, si on a des cheveux longs ou mi-longs, un petit peu comme moi, eh bien, on remonte sa queue de cheval.
Et bien, toi aussi, t'es tendance.
Exactement.
Yes. Ouais,
par contre, avec mon chouchou, c'est pour ça que je dis ça fait beau mot.
Yes. Voilà.
Alors, en
double tendance.
Exactement. Alors, en 2014, la queue de cheval sera plus haute. Alors, concernant la coupe, là aussi, ça te concerne un petit peu, Aurélie. Fini le carré strict et graphique. En 2014, il se porte de façon plus déstructurée sur les pointes et devient plus naturel et donc plus simple à coiffer au quotidien. Et ça, c'est cool.
C'est pas mal, ça.
Hein, parce que tu gagnes quelques minutes de plus au lit. Enfin, si vous voulez vraiment être à la mode, adoptez la frange qui sera cette année omniprésente dans tous les styles. Voilà, mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne pas passer à un cheveu de la mode.
Bon, et tu nous parles un peu d'accessoires parce que, bon, on a vu les fringues, la coupe de cheveux.
Mieux, je vais en fait vous parler de bijoux.
Ah, cool.
Alors, pas en or blanc, mes préférés.
Ah, et là, petit message personnel.
Voilà. Ni en argent, mais des bijoux très originaux en céramique.
Ah, oui.
Selon un des sites de référence de bijoux, Okara, donc, que je cite, les bagues en céramique se trouvent dans des coloris noirs et blancs. Alors, même si on peut en trouver aussi de couleurs.
De couleurs, ouais.
Elles peuvent être très simples et être associées à différents métaux comme l'or et l'acier, ainsi qu'à diverses pierres précieuses ou fines comme des diamants. Les bagues en céramique présentent l'avantage d'être très abordables et peuvent donc correspondre à tous les budgets. Donc en fait, il faut compter de 50 euros pour les bijoux en céramique les moins chers à plusieurs milliers d'euros pour des bijoux de la haute joaillerie.
Ah oui, parce qu'en fait, c'est le métal, par exemple, dont on fait les bagues, genre l'or ou l'argent, avec les montées des cours, en fait, c'est ça qui coûte plus cher. Du coup, si on a son diamant sur une bague en céramique,
exactement, tout dépend.
Que ça devient... Et,
voilà, effectivement, la céramique en elle-même ne coûte pas cher. C'est pour ça que je dis qu'on peut en trouver à 50 euros. Mais après, si on te met effectivement des diamants dessus, ou bien tout simplement, si ce sont des marques, bon, bah, je ne vais pas les citer, mais on les connaît de haute joaillerie, forcément, ça coûtera des milliers d'euros.
D'accord.
Tout chic pour vos montres, bagues, bracelets ou encore boucles d'oreilles, la céramique est très résistante. Elle ne se décolore pas, ne se raye pas et en prime, elle est hypoallergénique. Voilà une idée de cadeau tendance pour la Saint-Valentin.
Oui, petit appel du pied deuxième.
Voilà. T'inquiète.
Si là, le message n'est pas bien clair. Bah, hein,
voilà. Bah, parce que ça arrive bientôt, donc on donne des idées.
Il faut,
L'émission est rediffusée trois fois. Hein, si
que certains entendent clairement les choses.
Bon, c'est pas un appel au don, hein, mais si vous voulez me faire des cadeaux, moi, ça me dérange pas.
On va les fabriquer nous-mêmes, tu vas te retrouver.
Avec un collier de pattes.
Un collier de pattes, mais
ça sera très beau mot, ça.
Oui, c'est ça. Bon, alors par contre, il y a un tic avec ces bijoux en céramique, c'est qu'avec ces bijoux, il ne faut pas prendre de poids ou il ne faut pas en perdre. Parce que tout simplement, on ne peut plus les ajuster. Alors que l'or, on peut évidemment le faire fondre, là, c'est plus possible.
Oui, c'est plus...
Voilà.
Alors, on termine, parce que toi, tu es toujours en avance, avec une tendance qui verra le jour en 2015.
Oui, alors, évidemment, un petit peu de patience, mais attention, faites dès à présent de la place dans votre garde-robe. En 2015, vous porterez forcément des vêtements hyper branchés. Alors, lors du dernier salon high-tech organisé à Las Vegas début janvier, on a découvert des habits assez révolutionnaires. Ainsi, mesdames, vous porterez bientôt une robe qui changera de couleur en fonction du son de votre voix.
D'accord.
Messieurs, alors Guillaume, toi, peut-être que tu porteras bientôt un t-shirt connecté qui diffusera de la musique. C'est génial, ça.
48 FM en permanence.
Ouais, c'est cool, hein. Et pour les plus sportifs d'entre nous, vous porterez un t-shirt.
C'est-à-dire tous les autres.
Non, mais pour les auditeurs. Vous porterez un t-shirt intelligent qui, grâce à des capteurs invisibles, enverra des informations sur votre smartphone, telles que votre rythme cardiovasculaire, vos déplacements lors de votre footing, votre température corporelle. Bref, ce sera hyper pratique pour connaître précisément vos performances. Et Cocorico, ce t-shirt intelligent, sera estampillé Made in France. Ça va faire plaisir à nos bandes bourrées.
Ah oui, moi j'ai entendu ce week-end un reportage sur ce salon. Mmh. Et c'était une boîte française qui donc présentait à Las Vegas des grenouillères. Ah et oui. En fait, pour surveiller les nourrissons, tu sais, les morts subites du nourrisson, tout ça, savoir comment ils respirent, quel côté ils dorment, s'ils pleurent, ça même ton smartphone, il te disait si ça pleurait parce que parce qu'il avait faim, parce qu'il avait sommeil, parce qu'il était en colère, parce que voilà, ça te disait.
Oui, mais enfin, il y avait aussi dans les innovations. Les couches qui t'envoient
un signal quand elles sont pleines.
Oui, c'est ça.
D'accord. Oui, bah, généralement,
ça, ça existe déjà.
Mais là, c'est un message sur ton smartphone, sur Twitter.
C'est que tu ne dois pas en changer beaucoup des couches. Hein. Parce qu'une couche de bébé, t'inquiète que 10 km à la ronde, tu la sens la couche. Hein.
Mais justement.
Et là, ça dit, elle est pleine.
Mais voilà, donc il y a aussi.
Et ça dit pas la couleur, non, par hasard.
Il y a des innovations qui ne servent pas forcément à grand-chose.
Mais si, ça pourrait être pas mal. Chérie, c'est ton tour.
Non, parce que la problématique qu'on ne maîtrise pas forcément sur les, enfin, par rapport aux enfants, c'est quand même aussi la nocivité des ondes. Et on est quand même sur des trucs qui sont connectés.
Là, on n'a pas du tout de recul.
Voilà,
c'est
et
sûr.
C'est vrai qu'il y a quand même, quelques inquiétudes qu'on peut avoir sur ces aspects.
Enfin, moi, je parlais plutôt des habits quand même high-tech. Voilà.
Oui, plus pour faire de l'effet en soirée que pour porter.
Oui, parce que ça
peut
être sympa,
quoi.
Une robe qui change comme ça aux
couleurs,
au son de ta voix.
Et qu'est-ce que tu nous proposes en tendance musicale, puisqu'on était...
Alors, tendance musicale, je vous propose d'écouter la jeune Indila et sa dernière danse.
Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh.
Actu,
elle
et lui. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Actuel et lui. Voilà, nous étions en direct, on a bien ri, c'était bien sympathique. Vous pouvez retrouver cette émission sur 48fm.org.
Surtout, vous podcastez à fond parce qu'il faut absolument qu'on batte nos collègues. Nous sommes, paraît-il, quatrième dans le classement des émissions les plus téléchargées, ce qui n'est qui est inadmissible.
Par contre, Aurélie, on n'a pas vérifié.
On n'a pas vérifié cette info, mais on va y aller. Et ensuite, vérifier. Toute l'après-midi, là, tous ceux qui nous écoutent, vous allez podcaster en plus.
Oui, et puis on peut réécouter quand même cette émission sur le 48FM, donc 94.1. Voilà. Le mardi à
18h11.
Et le jeudi à
midi et demi. Voilà. Donc soyez au rendez-vous des prochains rendez-vous.
Des prochains rendez-vous, donc dans 15 jours.
Voilà, dans 15 jours, on sera à nouveau en direct. Entre-temps, on enregistrera une émission, puisqu'on aura quelques jours d'absence. Voilà, mais donc vous nous retrouverez de toute façon
dans
15 jours.
Avec
en direct.
Plein de surprises, hein, je crois.
Non, ça sera entre
une
les
émission
deux.
Chaude bouillante.
Oh, non, enfin, on peut quand même dire qu'il y a plein de surprises.
Ah, il y a plein de surprises.
Qui vont
il y a plein de surprises dans les prochaines
suspense,
émissions.
Mais voilà. Écoutez-nous.
On y travaille beaucoup et donc vous verrez, il y aura plein de choses dans les prochains jours. Voilà, bon après-midi sur 48FM.
À très bientôt.
À bientôt.
Et à bientôt.
Bisous, bisous.
Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle et lui.
Elle.
Lui.
D'actuel.
Et lui.